Bonjour. Les manifestants anti-Trump ont commencé à défiler partout dans le monde. Point d'orgue attendu cet après-midi à Washington avec une grande marche des femmes. Hier, le 45e président américain a été investi en déroulant un discours nationaliste. Le reportage de Franck Madvon au début de ce journal. Donald Trump, qui est aussi attendu au siège de la CIA dans la journée. Les relations entre un président américain et les agences de renseignement n'ont jamais été aussi mauvaises. Nous serons en direct avec Sébastien Yves Laurent, professeur de sciences politiques à Bordeaux et spécialiste du renseignement pour analyser les conséquences. En Turquie, la réforme constitutionnelle qui renforce le pouvoir du président Erdogan a été adoptée la nuit dernière par le Parlement. Explication à suivre d'Anne Andlauer. Et puis François Hollande vient de poser le pied au Chili. Tournée d'adieu à l'Amérique du Sud, un territoire dont la France se sera rapprochée pendant le quinquennat, nous dira Isabelle Labéry. Donald Trump vient de passer sa première nuit à la Maison Blanche. Il est devenu officiellement hier le 45e président des États-Unis. Une journée au cours de laquelle il a conservé le style de ses débuts, une harangue populiste centrée sur le mépris de l'élite politique jugée corrompue. Et plus globalement, il a flatté la fibre nationaliste de ses supporters venus l'acclamer à Washington où il a prêté serment. Le reportage de notre envoyé spécial Franck Madvon.
Donald Trump n'a pas fait le plein hier sur le Mall, l'immense esplanade au pied du Capitole, mais les centaines de milliers d'Américains venus assister à son sacre n'ont pas regretté le déplacement. Vous, le peuple, a-t-il lancé, allez redevenir les gouvernants de cette nation. Ou encore, America first, l'Amérique d'abord. Un discours nationaliste qui enchante les pro-Trump. Le mondialisme est mort, dit l'un d'eux. Vive l'américanisme. Nous sommes une nation souveraine qui n'appartient pas aux Nations Unies. Il dit vouloir rendre le pouvoir au peuple, dit un autre. Rendre à l'Amérique sa grandeur, ne pas mettre en priorité les autres pays, mais l'Amérique. Ce sont des mots forts. Le discours est parfois plus argumenté, mais l'idée est la même. Sous Obama, les États-Unis ne se sont pas assez souciés d'eux-mêmes. Je pense que c'est un tournant, dit ce Texan. Nous basculons vers une vogue plus nationaliste. Il faut se tourner vers nous-mêmes, panser nos plaies. Trump parle de carnage américain pour qualifier le pays dont il hérite, comme en campagne, pourquoi changer en entrant à la Maison Blanche.
Un reportage signé Franck Madvon. À peine investi, le nouveau président des États-Unis a marqué sa rupture avec l'ancienne administration en signant un décret contre le système de santé Obamacare, une réforme détestée des conservateurs pour son coût et sa lourdeur. Aujourd'hui, le nouveau président a rendez-vous à la cathédrale nationale de Washington pour un office œcuménique et il devrait aussi se rendre au quartier général de la CIA à L'Anglais en Virginie. La CIA qui a fait l'objet de nombreuses critiques de la part de Trump pendant la campagne et même après son élection. Pour en parler, nous sommes avec Sébastien Yves Laurent. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Bordeaux et spécialiste du renseignement. Alors, on se souvient des critiques virulentes de Donald Trump sur le rapport de la CIA et du FBI concernant les attaques informatiques russes lors de la dernière campagne présidentielle. Et c'est la première fois que les relations entre un président élu et ses agences de renseignement sont aussi mauvaises ?
En effet, c'est sans précédent. La CIA existe depuis plusieurs décennies, depuis peut-être 70 ans. Le FBI depuis près de 80 ans, et jamais dans aucune configuration d'élection présidentielle, les deux agences fédérales de renseignement que sont le FBI et la CIA n'avaient été aussi impliquées et attaquées frontalement par un candidat et ensuite par un président élu, puisque depuis l'élection de Trump, il a continué ses attaques principalement contre la CIA.
Dans le monde de 2017, ces mauvaises relations, ces attaques contre les agences de renseignement, ce n'est pas très rassurant, puisque les enjeux de renseignement semblent, en tout cas, de plus en plus complexes.
En effet, les enjeux sécuritaires sont largement des enjeux de renseignement, c'est-à-dire que les agences de renseignement participent de l'anticipation de la menace sécuritaire, que ce soit le terrorisme, que ce soit les attaques numériques et cybernétiques. Ça veut dire que le président de la principale puissance mondiale a besoin de ces agences de renseignement pour voir plus clair et pour faciliter sa décision.
Donald Trump, il est en train d'appliquer en ce moment le spoil system, cette pratique anglo-saxonne qui consiste à changer la tête des administrations lors d'un changement de majorité. Alors on attend la confirmation de Mike Pompeo pour prendre la tête de la CIA. Ça va lui suffire pour s'imposer dans le rapport de force avec les agences de renseignement ?
Ben, c'est exactement le terme que vous avez choisi. C'est un homme qui instaure un rapport de force pendant sa campagne, après sa campagne, et dès lors qu'il est élu, il veut ce populiste dont vous avez dit en amorce la forme très particulière de discours qu'il a tenu, il instaure un rapport de force face à ce qu'il analyse comme étant un système. Et il instaure un rapport de force aussi avec les agences de renseignement. Alors qu'il remplace le directeur de la CIA par un autre, ce n'a rien d'extraordinaire, c'est la règle en matière de d'arriver au pouvoir aux États-Unis. Il faudra voir quelle est l'ampleur du coup de balai qu'il donnera. Ce ne serait pas surprenant qu'il remplace un assez grand nombre de responsables des agences de renseignement. Hein. Il y a plus d'une dizaine d'agences de renseignement. Mais la question qui doit être posée, c'est dans quelle mesure cet immense état secret qui existe aux États-Unis, qui sont cette grande dizaine d'agences de renseignement, pourra ou non lui résister. C'est le point absolument central, parce que finalement, Trump, le président Trump, aura aussi fortement besoin de ces dizaines de milliers de fonctionnaires américains qui travaillent dans ces agences de renseignement.
Alors, un mot peut-être...
Qu'ils puissent transformer totalement le système.
Sébastien Yves Laurent, un mot peut-être de Mike Pompeo qui est pressenti pour prendre la tête de la CIA. C'est un proche de Donald Trump.
Alors, Pompeo, on le connaît un peu, mais la question de son... de sa compétence en matière de renseignement est posée. Ce qui est important, c'est que chaque président nomme des gens qui ont soit les compétences, soit qui passent pour être proches de lui. La question centrale, c'est pas tant la proximité entre le directeur de la CIA et le président des États-Unis, c'est la capacité pour ce nouveau président à imposer sa vision du monde, son agenda, ses priorités à la communauté du renseignement, puisque c'est ainsi qu'on l'appelle aux États-Unis. Et ce qui est très important de bien comprendre, c'est que la CIA n'est qu'une des agences fédérales. Il y a la NSA qui est célèbre depuis l'affaire Snowden. Il y a aussi le service de renseignement militaire du Pentagone qui est très actif dans tout le Moyen-Orient. Il y a le FBI. Bref,
une communauté.
On met en avant la CIA, mais c'est une communauté qui est beaucoup plus large.
Voilà, et qui sera aussi plus résistante peut-être qu'en apparence face à Donald Trump. Merci Sébastien Yves Laurent d'avoir été l'invité du journal de 12h30 de France Culture. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'université de Bordeaux et spécialiste du renseignement. L'investiture de Donald Trump a aussi donné lieu à des scènes d'émeutes hier dans les rues d'habitude très aseptisées de Washington. Il y a eu 217 arrestations après des violences avec la police en marge de l'événement. La fracture d'une partie de la société américaine avec le nouveau président sera aussi mise en relief aujourd'hui avec une grande marche organisée par des femmes et relayée par les réseaux sociaux à Washington. 200 000 personnes sont attendues. 300 défilés sont aussi organisés partout dans le monde pour protester contre les propos misogynes et racistes du président américain. À Paris, le point de départ sera à 14h au Trocadéro. C'est organisé par des associations féministes et de défense des droits de l'homme. En Allemagne, les principaux partis de la droite populiste ou de l'extrême droite en Europe se réunissent à Koblenz, dans l'ouest du pays, ce samedi, alors que Donald Trump vient d'être investi. C'est une première pour les partis eurosceptiques réunis au sein du groupe parlementaire Europe des Nations et des Libertés au Parlement de Strasbourg. Pascal Perrineau, le directeur du CEVIPOF, relativise néanmoins la portée de cette réunion.
C'est un événement qui doit être retenu parce que on voit bien que tous ces partis, à l'aube d'une année électorale dense, sont en train de se mettre en ordre de bataille, mais il ne faut pas transformer cet événement en événement annonciateur d'un raz-de-marée des nationalistes et des populistes dans toutes les démocraties européennes. C'est une famille qui bénéficie en effet de la crise économique, sociale, politique qui traverse nombre de démocraties européennes, mais dans l'immense majorité des démocraties européennes, ces partis sont encore loin d'avoir une capacité à occuper le pouvoir. Ces nationalistes restent entre eux à Koblenz. Il n'y a pas pour l'instant, quel que soit le pays concerné, de capacité de ces forces nationalistes et populistes à nouer des alliances plus larges qui leur permettraient de trouver de véritables partenaires en dehors de leur famille naturelle. Et c'est un des problèmes de ces nationaux populistes. Ces nationaux populistes sont forts aujourd'hui en Europe, mais très souvent, leur problème politique, ce qui contient encore leur dynamique et parfois leur accession au pouvoir, c'est la difficulté à trouver de véritables partenaires pour constituer des vraies coalitions majoritaires pour gouverner.
Est-ce qu'on peut parler de front homogène ? Enfin, on a déjà vu des dissensions, le président du FPO ne sera pas là. Enfin, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces dissensions ?
Les dissensions sont réelles parce qu'elles ont toujours existé depuis l'apparition de ces partis dans les années 80. Ces partis ont toujours eu beaucoup de mal et même ont été incapables de se rassembler et de s'unir au plan européen. Jean-Marie Le Pen avait déjà eu beaucoup de difficultés, Marine Le Pen en a aujourd'hui, tout simplement parce que fédérer au plan européen des nationalistes, c'est très compliqué et peut-être même impossible. Ce qui les oppose souvent dans leurs intérêts nationaux est plus important que ce qui les rassemble.
Des propos recueillis par Tiphaine Honoré. À 12h45, l'Atelier du Pouvoir reviendra sur ce sujet avec l'historien Pierre Rosanvallon. Et cette question, qu'est-ce que le populisme ? En Turquie, le Parlement a adopté la nuit dernière la révision constitutionnelle qui instaure un régime présidentiel. Texte adopté à une courte majorité de 339 voix sur les 330 requises. Réforme du président Recep Tayyip Erdogan qui doit maintenant être soumise à un référendum. Anne Handlauer, vous nous expliquez le contenu de cette révision de la loi fondamentale turque.
Un président chef de l'exécutif, sans premier ministre, qui n'aura plus à couper les liens avec son parti politique, nommera et révoquera les ministres sans aucun contrôle parlementaire, choisira à sa guise un ou plusieurs vice-présidents, pourra gouverner par décret, dissoudre l'Assemblée et décréter l'état d'urgence quasiment lorsque bon lui semble. Telles sont les grandes lignes de la révision adoptée par les députés turcs. L'examen des 18 articles du projet constitutionnel aura été rapide, une douzaine de jours, et particulièrement violent. On dénombre plusieurs blessés parmi les députés suite aux échauffourées qui ont émaillé les débats. Comme prévu, le parti au pouvoir, l'AKP, a fait bloc derrière le texte et a obtenu le soutien d'un nombre suffisant d'élus du parti ultranationaliste, le MHP, lequel confirme ainsi la coalition informelle qui le lie désormais au gouvernement. Fustigé par l'opposition pro-kurde et social-démocrate, le texte doit encore être validé par le président turc, Recep Tayyip Erdogan, dans un délai de 15 jours. Sa signature ouvrira la voie à un référendum que le chef de l'État souhaite organiser dès que possible, courant avril. Les deux camps, celui du oui et celui du non, se préparent à une campagne intense pour convaincre les électeurs. Selon un récent sondage de l'Institut ANAR, 78% des Turcs se disent pour l'instant pas, très peu ou peu informés sur le projet.
Correspondance d'Anne Handlauer, notre correspondante à Istanbul. Après ses adieux à l'Afrique, le week-end dernier, François Hollande vient de poser le pied en Amérique latine. À 4 mois de la fin de son mandat, le chef de l'État est au Chili, puis il se rendra en Colombie jusqu'à lundi. François Hollande a particulièrement soigné les relations avec l'Amérique du Sud pendant son quinquennat. Les explications d'Isabelle Labéry.
Avant lui, peu de présidents avaient à ce point resserré les liens avec le continent latino-américain. François Hollande, premier chef d'État à se rendre à Cuba, s'est aussi rapproché de nombreux pays de la région pour garantir le succès de l'accord de Paris sur le climat. Sauf qu'après lui, le continent risque de redevenir l'angle mort de la diplomatie française. Gaspard Estrada dirige l'Observatoire pour l'Amérique latine et les Caraïbes.
Le risque terroriste et les graves difficultés que vit l'Union européenne imposent une hiérarchisation des priorités. Cela étant dit, si l'on laisse une fois encore l'Amérique latine à l'abandon, tous les progrès modestes sous François Hollande tomberont à l'eau. Et de ce point de vue-là, cela n'est pas une bonne nouvelle.
Pour l'économie ou pour la diplomatie ?
Pour les deux. Sans cette impulsion politique, il sera aussi difficile d'obtenir des contrats et donc des emplois. Je souhaite justement appeler les candidats à l'élection présidentielle à ne pas oublier une fois encore l'Amérique latine.
François Hollande, lui, veut laisser une trace. Il lancera l'année franco-chilienne pour la coopération scientifique et l'année France-Mexique pour les échanges culturels. Deux initiatives qui se prolongeront bien au-delà de son mandat.
Les explications d'Isabelle Labéry. La Gambie attend le départ effectif en exil du président sortant Yahya Jammeh. Sous la menace d'une intervention militaire, il a finalement accepté de céder le pouvoir à son successeur Adama Barrow hier. L'accord de principe obtenu par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest n'a néanmoins toujours pas été signé ce midi. La météo de votre après-midi avec un soleil généreux sur la majorité du pays. Quelques nuages voileront de façon temporaire le ciel du Languedoc et de Provence-Alpes Côte d'Azur. Temps un petit peu plus agité en Corse, qui sera placé la nuit prochaine en alerte orange pour des pluies et des inondations. Les températures restent hivernales. Moins 1 à Strasbourg, 3 à Paris et Lille, 6 à Brest, 10 à Bordeaux, 12 à Marseille et 13 à Ajaccio.